Le problème, c'est qu'est-ce que la miséricorde? Il y a un petit peu de ça. Qu'est-ce que la miséricorde pour nous? Et qu'est-ce que la miséricorde à partir de la parole de Dieu? Alors, avouons quand même que ce mot miséricorde, il fait partie du vocabulaire religieux. Est-ce que vous entendez souvent les journalistes à la télé employer le mot miséricorde? Est-ce que dans les journaux, vous le voyez souvent, à part la croix ou à la rigueur vie chrétienne? Est-ce que ce mot-là, ce n'est pas, hélas, c'est un mot que nous utilisons, que nous allons utiliser pendant un an, mais hélas, il me semble qu'il n'est pas entendu par les gens d'aujourd'hui parce qu'il n'y a plus quelque chose de concret derrière, ou peut-être miséricorde, faire miséricorde. Bon, on voit bien ce que ça veut dire quand même. Hein. Il y a de la misère là-dedans. Puis il y a une espèce de corde, bon, ça peut peut-être être un peu le cœur, la misère. On voit bien qu'il y a ça, mais concrètement quand même, qu'est-ce que ça veut dire le mot miséricorde? Alors, il faudrait ce soir essayer de redonner un petit peu de force, de vitalité à ce mot, et pas simplement du mot lui-même, mais de tout ce qu'il y a derrière et de tout ce que Dieu peut nous dire à travers ce mot. Et c'est pour ça qu'il est important de pouvoir reprendre les racines bibliques et en particulier les racines hébraïques, parce que c'est là où il y a toute la sève que nous avons, nous, ensuite, à mettre en œuvre, à recevoir, et puis, naturellement, à transmettre. Parce que, comme dit un texte qui date de l'an 2000, et qui est d'ailleurs du cardinal Ratzinger, avant qu'il ne soit pape, le Nouveau Testament ne peut pas se comprendre sans l'Ancien. Oui. Et sans les traditions juives. Aïe, aïe. En gros, ça va, hein, que le Nouveau Testament, il faut quand même faire un petit peu d'Ancien Testament pour comprendre un peu. On peut passer dans les mœurs, mais les traditions juives, c'est-à-dire ce qui est porté par la communauté juive aujourd'hui, encore, ça, la tradition juive, elle est vivante dans la communauté. Et donc, si vous voulez retrouver, si nous voulons retrouver une source vivante, il faut faire appel à la tradition juive. Oui, et c'est pour ça que ce soir, nous pouvons essayer un peu de faire ce cheminement. Comment la communauté juive nous a transmis ce mot, ou plutôt ces mots. Et c'est par là que je voudrais introduire, parce que l'avantage du langage hébraïque, c'est que c'est un langage concret. Alors que le langage grec, il est davantage un petit peu tout de suite idéologique et philosophique. Alors donc, ce langage concret, il est peut-être important justement d'en retrouver la vivacité pour redonner un petit peu vie à ce mot miséricorde, parce que justement, ce mot-là regroupe plusieurs mots dans l'expression biblique et dans nos traditions religieuses. Qu'est-ce que la miséricorde? Ben, vous le savez, ce qu'est la miséricorde. Quand les moines et les moniales ont levé leur siège pour prier debout, ils se reposent un peu et ils casent leur séance sur une miséricorde. Vous savez ça quand même. Ça reste encore quand même un langage religieux. Hein. Mais il est beau ce mot. C'est ce qui nous empêche, ce qui empêche les gens qui prient, qui veulent être en contact avec Dieu totalement. Là. Ils ont besoin de la miséricorde, parce que quand c'est la nuit, sonnent les matines, etc., eh ben, pour ne pas s'écrouler, pour ne pas tomber, on se repose sur la miséricorde. Ça, au moins, c'est pratique. Mais ça reste encore quand même une image très, très architecturale, ou de menuiserie, ou de charpentier. Oui, mais enfin, quand même, je trouve que le mot est beau, là. Et il nous dit quelque chose de la miséricorde. Enfin, ça reste encore quand même dans le domaine religieux. Voilà. C'est dommage que dans les bus et dans le RER, on n'ait pas appelé là où on se tient et où on se pose un peu une miséricorde. Je crois qu'il faudrait que vous fassiez campagne. Ah oui, pour que ce mot-là reprenne un sens concret. Voilà. Il y aurait de quoi faire. Bon, Vous voyez un petit peu. Alors, rentrons quand même dans, après cette petite distraction, mais qui voyait à son importance, parce qu'il y a bien une image concrète, là. Entrons un peu plus dans le vocabulaire. Alors, nous l'utilisons, ce mot, tout de suite dans la liturgie, quand on se retrouve en corps du Christ. La première prière, et on l'a gardée en grec, vous connaissez, c'est « Kyrie eleison ».« Kyrie eleison ». Et le mot là est « eleos », qui est le mot utilisé dans le langage grec pour dire la miséricorde, que l'on a traduit donc « prends pitié ». Il est là, ce mot. Et puis, vous le savez aussi, on va redire encore ce mot-là, mais on va le dire en latin cette fois-ci. Enfin, quand vous dites la messe en latin, parce que je pense que vous le dites ici. Donc, quand on dit la messe en latin, on dit « Agnus Dei, miserere nobis ». C'est intéressant d'ailleurs, parce que c'est quand on se rassemble pour manifester le corps du Christ, quand vous êtes réunis en mon nom, je suis là, nous manifestons par notre rencontre la présence du Christ, et puis avant qu'il y ait ce pain de partage, ce pain qui nous dit le Christ vivant, on va redire encore là ce mot-là, on va le dire en latin cette fois-ci. Mais voilà, nous avons ces deux moments dans la messe où on va utiliser le mot et on va rappeler cela. Alors, puisque l'éducation nationale nous invite à faire encore du grec et du latin, je vais vous en passer un peu. Pourquoi c'est utile ? Et je vais prendre l'exemple du psaume 50. Le début, tout simplement. On connaît un petit peu le psaume 50. Alors, je vous le dis, si je retrouve la page en latin. Miserere mei Deus. Miserere. D'accord, on voit tout de suite. Secundum magnum misericordiam. De nouveau, nous avons le mot miséricorde là. Miserere, ça sera après. Je cache, c'est pas grave. Miserere, secundum magnam misericordiam, et secundum multitudinem miserationum tuarum. Miserationum. Trois fois on a le mot misère. Deux fois misericordiam et une fois miserationis. Dans ce premier verset du psaume 50, qui est le psaume attribué à David, qui dit « j'ai péché » et qui demande donc pardon à Dieu du péché, de ce qu'il a fait avec Bethsabée, pas avec Bethsabée, mais c'est surtout parce qu'il a fait tuer le mari de Bethsabée. Voilà, ce qui est quand même plus embêtant. Et donc, c'est ce psaume-là que l'on connaît, ce psaume 50, où nous avons trois fois le mot misère. Eh bien, ça c'est notre latin, et on s'aperçoit à ce moment-là que la langue latine est un petit peu déficiente, puisque on a trois fois le mot misère. Le grec lui-même, allons-y, hein, pour honorer encore, tout simplement. Eleison me, ben oui, naturellement, eleison. Eleison me, aie pitié de moi, otéros, ô Dieu. Katatos megat, eleos sou. Ah oui, on a deux fois le mot eleos là. Eleos, eleos. Puis après, kai katato, pletos, octrimon. Octrimon, tu tiens, octrimon, tu dis ce que c'est que ce mot-là. C'est vrai qu'il est utilisé simplement six fois dans le Nouveau Testament, donc c'est quelque chose d'un peu curieux, que l'on traduit un peu par compassion. Donc dans le latin, nous avons trois fois misère, dans le grec, on a deux fois, et une autre fois un autre mot, mais quand on va voir l'hébreu, je ne vais pas vous le lire, je ne sais pas si Philippe a pensé à ce psaume, mais je vous ai mis là donc la traduction actuelle de ce psaume 50. Et heureusement, la traduction en français va respecter, va bien mieux respecter que le grec, et ne parlons pas du latin, va respecter bien mieux l'hébreu qui est en dessous, parce que nous avons donc trois fois, avec trois mots différents. On va retrouver « pitié, mon Dieu », et c'est la racine que vous connaissez, « Hanna », que l'on a dans « Johann », Dieu fait grâce. De grâce. C'est comme ça d'ailleurs qu'on aurait pu traduire plutôt que pitié. Fais-moi grâce, Seigneur. C'est comme celui qui va être condamné à mort. Il crie grâce. Fais-moi grâce. C'est ce mot qui est derrière, le mot hébreu, il y a la grâce. Chan, je me suis permis de vous le mettre. Dans ton amour, tiens, c'est pas le mot miséricorde qui est là. Comme en latin, même comme en grec avec Eleos. C'est le mot amour, le mot resed. Et puis après, encore, selon ta grande miséricorde, on a gardé quand même ce mot-là en français cette fois-ci, une fois simplement, vous voyez, sur trois par rapport au latin. Et là, on a un mot qui est autre, qui est rahamim. Donc vous voyez que la richesse du vocabulaire de la Bible hébraïque est importante, ne serait-ce que pour nous, pour que ce mot, que l'on ne voit pas très bien ce que ça veut dire, on a l'impression que là aussi, en hébreu, on va chercher quelles sont les images qui vont pouvoir dire quelque chose qui nous dépasse, parce que c'est le mystère de Dieu, et Dieu nous dépasse. Voilà donc, ces trois mots qui sont là vont d'une certaine manière donner une certaine floraison à la miséricorde avec ces mots du psaume 50 qui nous disent « Regardez dans différentes directions » et vous allez peut-être mieux comprendre quand on parle de miséricorde ce que cela veut dire. C'est ainsi que François a écrit, c'était en janvier, c'est pour une encyclique, c'est un petit mot, qui s'appelle « Le nom de Dieu est miséricorde ». C'est-à-dire qu'il y a une espèce de connaturalité entre Dieu et la miséricorde. Et même encore, Benoît XVI a écrit alors une encyclique qui s'appelle « Dieu est amour ». Amour, Resed, nous l'avons. Dieu est miséricorde, Dieu est amour. Donc il y a une connaturalité entre ce mot miséricorde qui semble si loin, qui fait un peu pitié, et puis la grandeur et la figure de Dieu qui pour nous chrétiens va apparaître en Jésus et qui lui va exprimer ces différentes facettes d'un Dieu qui est miséricorde. Et il va l'exprimer à travers tout ce qu'il va faire dans ses œuvres, et c'est pour ça que vous comprenez, nous serons nous aussi invités à vivre cela. Alors, nous avons donc derrière ce mot miséricorde, nous avons un mot qui est important, enfin deux, trois mots, mais au moins deux qui sont importants, qui dans la Bible vont dire que Dieu est amour. Resed et Lachamim. Et là, je voudrais, à ce moment-là, prendre un petit extrait, parce que c'est assez long, d'une encyclique de Jean-Paul II, qui est Divinis Misericordiae, qui date de 80. Et il y a une note qui court sur 4 pages. Je n'ai jamais vu des notes dans les encycliques sur 4 pages. On a à la rigueur une note, comme notre vénéré prédécesseur, un tel, a dit, etc. On a ça, on a des notes. Ça, les notes dans les encycliques, vous en avez des tonnes. Pour bien montrer que toujours, ça a déjà été dit, tout ça, voilà. Mais là, c'est pas ça. C'est un développement énorme dans une encyclique. C'est un petit cours. Et qu'est-ce que fait le pape Jean-Paul II à propos, dans cette encyclique qui nous parle de la divine miséricorde, en 80, il nous parle justement de ces mots que je vous ai mis et qui disent quelque chose de l'amour. Pour définir, je ne vais pas vous lire toute la date parce que ça serait trop long, pour définir la miséricorde, tiens, donc c'est bien cela dont il est question, pour définir la miséricorde, les livres de l'Ancien Testament emploient essentiellement 2 expressions. Chacune d'entre elles a une nuance sémantique différente. Alors il dit 2. Mais comme c'est un polonais, il rajoutera 1/3 et même 1/4. Mais il parle des 2, là, essentiellement. Des 2, déjà. En tout premier lieu, il y a le terme « chesed » qui indique une profonde attitude de bonté. C'est là où il faudra quand même vérifier avec la tradition juive. Un amour qui donne, un amour plus puissant que la trahison. une grâce plus forte que le péché. Dieu, en se fondant sur une justice légale, pourtant il peut et doit garder l'espoir de la confiance et de l'obtenir parce que le Dieu de l'Alliance est réellement responsable de son amour. Le fruit d'un tel amour, c'est le pardon, la restauration de la grâce, le rétablissement de l'alliance intérieure. Et toujours avec une explication sur Recède. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit après. Mais on est en 80, avant les réflexions sur le genre. Vous allez voir pourquoi. Être fidèle, toujours avec Recède, être fidèle à soi-même et être responsable de son amour, c'est dans un certain sens des caractères masculins. Je laisse aux femmes ici, je répète. Être fidèle à soi-même et être responsable de son amour, c'est en un certain sens des caractères masculins. Et il dit ça parce qu'il introduit maintenant le deuxième mot, raham, l'arménie. Le second mot qui sert dans la terminologie de l'Ancien Testament à définir la miséricorde est rahamim. La racine sémitique, dénote l'amour de la mère, l'echem, les entrailles. Bon, c'est ce qu'on dit dans le « Je vous salue Marie ». On continue de traduire « le fruit de tes entrailles », on pourrait dire « le fruit de ton amour », ce serait quand même plus simple, surtout quand on est enfant. Ils ont quand même du mal à cette triperie spirituelle. Enfin, quand même. Alors, on a gardé là, parce que là, cette fois-ci, on a un mot concret, et très concret. C'est les entrailles, c'est le ventre, c'est les tripes, ça me prend aux tripes. Et ça, c'est, on l'a, on pourrait traduire comme ça d'ailleurs, quand Jésus rencontre le jeune homme riche, hein, dit, il fut bouleversé. Oui, tout gentil, bouleversé. En fait, le mot qui est là, c'est, il fut pris aux tripes, Jésus. C'est magnifique, ça. Donc, il y a ce second mot, recède, masculin, nous dit Jean-Paul II. Raham, vous comprenez tout de suite, si c'est les entrailles, si c'est le ventre, ça va être féminin. Et c'est pour ça que je vous dis, il a écrit ça avant le problème de la distinction des genres, oui, plutôt de la non-distinction des genres, puisque c'est ça qu'on dit les questions. Donc, il est entièrement, cet amour est entièrement gratuit. Il y a là une variante presque féminine, presque, comme l'autre c'était presque masculin, une tendance, à la fidélité. Il y a là une variante presque féminine à la fidélité masculine à soi-même, qui est exprimée par Ressem à côté. Voilà. La terminologie grecque, alors voilà, oui, enfin, c'est pour ça que je me suis dit quand même, pour comprendre Jean-Paul II, il faut passer par là. La terminologie grecque de la version des Septante montre une richesse moins grande. Heureusement qu'il n'a pas dit la terminologie latine, parce que ça sera encore réduit. De trois mots différents, les Grecs en ont fait deux, et les Latins n'en ont fait plus qu'un. Donc on réduit tout ça, on réduit là le champ sémantique et donc l'image, les images qui peuvent nous parler. Alors c'est là qu'il va dire, bon, il y a deux mots, mais il ne faut pas oublier qu'il y a le mot « grâce » qui apparaît aussi, et même encore deux autres, je vous les laisse. Mais c'est assez étonnant de trouver dans une encyclique une note de type théologie biblique, et très fouillée dans le vocabulaire. Je crois que c'est le seul exemple que l'on ait dans toutes les encycliques d'une note de ce type-là. Parce que c'est pas l'habitude des encycliques, mais voilà qu'il l'a fait. Et cela veut donc dire que ce mot miséricorde a besoin un peu d'explication, de mettre quelque chose autour pour donner un peu de force. Et heureusement, j'allais dire, la traduction actuelle du psaume 50 nous permet au moins en français de retrouver cela. Pitié, que j'aurais traduit grâce, fais-moi grâce, ça serait encore plus proche. Fais-moi grâce, mon Dieu, dans ton amour, recède, le masculin. Dit Jean-Paul II. Et selon ta grande miséricorde, selon tes entrailles, selon ton amour maternel, car Dieu est l'un et l'autre, eh bien, donne-moi maintenant ton amour et apprends-moi. Voilà cette image de la miséricorde, avec ces mots que j'ai voulu un peu redonner de la chair un peu à tout cela. Naturellement, il y a... L'homme est fait à l'image de Dieu. Et si Dieu est miséricorde, comme nous dit François, alors nous devons, nous aussi, à l'image de Dieu, ne pas la troubler, mais s'efforcer, nous aussi, d'être miséricorde, d'être miséricordieux. Vous savez que c'est la béatitude. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Parce que d'une certaine manière, Dieu est miséricorde avec nous, oui, d'accord. Mais il nous demande d'être miséricordieux. Vous savez que ça sera la finale du jugement dernier. Dieu ne nous demande pas si on est baptisé, si on va à la messe tous les dimanches, si on fait tout ça. Il dit, qu'est-ce que tu as fait de ton frère? C'est la dernière question qui nous est posée dans cette parabole du jugement dernier de Matthieu. C'est d'ailleurs aussi la première question qui est posée dans la Bible à Caïn. Qu'est-ce que tu as fait de ton frère? C'est la première question dans la Bible. Quand il y a deux frères, qu'est-ce que tu as fait de ton frère? Et c'est la question qui nous est posée à la fin. Qu'est-ce que tu as fait de ton frère? On ne nous demande pas de croire, d'être de telle ou telle religion, ou de telle ou telle foi, mais ton frère. Tu as été miséricordieux dans ce sens d'un amour à la fois peut-être parfois un peu rigoureux, juste, exigeant, mais d'un amour aussi qui déporte tout ça comme un amour maternel qui ne peut pas s'empêcher d'aimer. Donc nous avons à être ainsi miséricordieux. Et je me suis permis d'aller me dire, tiens, mais en fait, dans la, naturellement, en grec, on a le mot éléos qui est là, tout simplement. Mais pour garder un petit peu la coloration sémitique de l'hébreu que l'on a, je me suis dit, tiens, dans la traduction syriaque, dans la Peshitta, quelle est la racine qui est là? Et la racine de cette béatitude, c'est la ram, c'est d'être miséricordieux à la manière de l'amour féminin que Dieu possède aussi et qu'il donne dans son grand amour. Et donc, je ne pourrais pas aller voir comment c'était traduit en hébreu dans les traductions, j'aurais dû aller voir dans le Nouveau Testament en hébreu. Est-ce qu'ils ont repris le alaham ou est-ce qu'ils ont mis autre chose? Tiens, j'aurais dû aller voir. En tout cas, dans la traduction alors très ancienne de la Peshitta qui nous vient quand même dans l'ambiance araméenne et sémitique de l'époque, c'est bien, quand on nous dit « soyez miséricordieux », c'est bien le mot, là, de la rame, d'être comme une mère qui va aimer jusqu'au bout. Et c'est pour ça que Dieu nous aimera, nous, jusqu'au bout. Nous avons donc à faire bénéficier de l'amour de Dieu pour que nous puissions en bénéficier nous-mêmes. Et c'est pour ça que nous sommes invités dans cette année de la miséricorde à faire des gestes de miséricorde, non pas pour répondre à l'appel d'un pape, non, mais pour que nous soyons image de Dieu. C'est ça qui est important. Comme le Christ, lui, a été l'image de Dieu au milieu de nous et qui a donc agi dans ses actes de miséricorde parce que c'est une réalité de Dieu, j'allais même dire, c'est l'être même de Dieu, car Dieu est amour. C'est une encyclique de Benoît XVI. Dieu est amour. François vient d'écrire « Le nom de Dieu est miséricorde », mais vous voyez bien que tout cela se rejoint. Et nous sommes donc dans ce champ sémantique-là d'un amour total, donné avec différentes présentations, parce qu'un mot ne suffit pas à nous dire Dieu, c'est sûr. Et c'est cela que nous sommes invités à méditer un petit peu plus ce soir. Et il s'agit maintenant, donc moi je vous fais une petite introduction sur ces aspects vétérotestamentaires et de la langue sémitique pour pouvoir maintenant écouter Philippe qui va nous développer tout ça sans problème. Merci Pierre.